de notre vie chrétienne, parce que nous devons suivre et appliquer la parole. Et nous voulons qu'elle nous soit révélée ce matin. Amen. Prions. Notre Dieu et Père, nous te bénissons, car ta bonté est grande, ta fidélité va jusqu'au nu, Seigneur, et tu nous as laissé cette parole éternelle. Tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera point. Alors merci de pouvoir l'ouvrir, la méditer, la recevoir. Seigneur, que nos cœurs soient disposés favorablement, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste un technicien, j'aurais besoin un tout petit peu au début pour l'ordinateur et la vidéo. Je vous invite à ouvrir dans 2 Timothée, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 12 à 17. Voilà, vous y êtes. Alors, 2 Timothée 3, verset 12. Par contre, je vais lire le contexte à partir du verset 10. Pour moi, donc Paul s'adresse à Timothée. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. Ça fait beaucoup ça. Vous voyez, un disciple, Timothée qui était disciple de Paul, vous voyez tout ce qu'il a suivi. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez être un disciple, voilà ce qui vous attend. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Voyez-vous, ce qui est bien, c'est cette conclusion. Le Seigneur m'a délivré de toutes. Paul ne s'étend pas dans la misère, hein, comme certaines personnes qui parlent que de leur passé. Bien sûr, il parle du passé, mais pour le magnifier en disant je m'en suis sorti de toutes, voilà, grâce au Seigneur. Et il précise, et là c'est l'enseignement de ce matin, tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Il y en a qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ ici? Non. Ah, je comprends pourquoi il n'y a pas de main levée ce matin. Pourtant, c'est la parole, hein, on vient de le dire. Alors, ce matin, le message qui est dans la continuité des messages précédents sur l'Église, la nature de l'Église, comprendre qui nous sommes en tant qu'Église. Nous et l'Église, en fait, c'est la même chose, puisque l'Église est composée de chacun de nous. Donc, des « nous » ajoutés, ça fait l'Église. Voilà. Donc, si nous comprenons qui nous sommes, nous comprenons aussi qui est l'Église, et vice-versa. Par contre, l'Église est un tout petit peu plus compliquée dans la mesure où nous sommes à plusieurs. Hein. Donc, il nous faut être d'accord à plusieurs, il nous faut décider ensemble, il faut être ensemble. Voilà. Donc, il y a des choses un petit peu qui se rajoutent, mais fondamentalement, la nature est la même. Si nous voulons vivre pieusement, alors pieusement, ça ne veut pas dire être à genoux toute la journée en train de prier. Hein. Ça, c'est les images pieuses que nous ont léguées la religion. Hein. Mais pieusement, c'est celui qui veut être fidèle à Dieu, hein, qui veut être fidèle à son maître. En France, heureusement, nous n'avons pas de persécution physique, mais les persécutions sont nombreuses. Il suffit d'être un peu responsable d'une communauté pour s'en apercevoir, hein, en tant que chrétien aussi. Dès que vous voulez aller dans l'espace public, hein, le papa de Meyer, il en connaît quelque chose, non seulement vous êtes persécuté, mais vous avez même des menaces de mort. Hein, ça veut jusqu'à menaces de mort. Vous inquiétez vraiment la société française. Hein, si vous voulez être pieux, si vous voulez mettre en pratique la parole. Hein. En France, la persécution se fait de manière douce, mais efficace. Hein. Ça se fait par l'ignorance, on vous ignore, par l'ostracisme, on vous met à part, par le harcèlement, en particulier administratif, etc. Nathalie Gendron, que j'ai eue au téléphone, d'ailleurs elle va venir visiter le groupe du Torrent en septembre, disait qu'à Strasbourg, pourtant Strasbourg c'est la ville de Calvin, la ville de Bucer, la ville d'un réformateur, une ville libre, qui avait ses propres lois, c'est ce qu'on appelait les villes libres de l'époque. Et en fait, Strasbourg aujourd'hui, qui est très protestante, en fait, ils ne veulent pas, ils font des misères aux églises, qui pourtant sont nombreuses, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens en Alsace, parce qu'ils veulent tous les parquer à la Méno. La Méno, c'est là que j'ai fait mes études dans un lycée, et tous à la Méno. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas que les églises gênent. Vous voyez ? Donc, comme il y en a quelques-unes, bon, ils les parquent là. Donc, ils interdisent dans les autres endroits. Alors, heureusement, elle a un maire qui, bon, c'est pas Strasbourg, c'est Lingolsheim, qui a quand même autorisé, là, ils ont acheté un local, là, ils vont faire une église à Lingolsheim, mais c'était un combat énorme pour arriver à l'obtenir, parce qu'ils voulaient l'emmener à la Méno. Donc, toutes les églises sont à la Méno, comme ça, ils sont parqués là-bas, les églises vont là-bas, et les chrétiens vont là-bas. Donc, vous voyez, la persécution est un peu particulière, dans le sens où on veut garder l'image d'une France libre et ouverte, mais dans les faits, on essaie de faire de l'ostracisme. Alors, j'aimerais revenir sur notre compréhension de l'Église, et on va projeter cette image-là, parce qu'on va revenir après à l'enseignement. J'ai trouvé ça l'ordinateur là, et c'est intéressant parce que elle montre bien, de manière assez ludique, le tableau des alliances. Et vous, il y a l'alliance avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec David, qui continue avec l'alliance en Jésus-Christ. C'était des alliances préparatoires pour aller vers un point central qui est l'alliance avec Jésus-Christ. C'est l'alliance définitive entre Dieu et les hommes, basé sur la grâce, grâce pure, non pas sur une alliance où il attend de nous quelque chose. En fait, il nous a tout donné en Jésus-Christ, et c'est le début de l'Église. Pour tous les hommes, pas simplement le rassemblement d'Israël, bien sûr, Jésus est venu en tant que juif, mais il est venu pour sauver toutes les nations, et donc c'est le début de l'Église. Donc vous voyez, c'est un point central. Point central. Alors, si tu peux te brancher maintenant sur mon iPad pour la suite de l'enseignement. Donc, je reviens à la compréhension du royaume. Hein, et c'est le sens de la compréhension de l'Église. Essayer de comprendre l'Église sans comprendre le royaume, c'est impossible. En tout cas, dans les siècles passés, les chrétiens ont voulu le faire, et ils sont tombés dans des explications dont ils ont dû regretter, puisqu'il y a même une demande de pardon officielle qui s'est faite par le pape il y a quelques années auprès des juifs, à cause de la théologie de substitution où l'Église se substituait à Israël. C'était une erreur qui pourtant a duré 2000 ans et qui a conduit au sionisme, qui a conduit à persécution des juifs, etc., y compris de l'Église, puisque l'Église a conduit des juifs au bûcher. Ce serait bien que je puisse l'avoir là, s'il te plaît. Ah, très bien, c'est gentil. Oh, quelle organisation. Merci, Tom. Donc, je reprends l'histoire. Si vous voulez, à l'époque de Jésus, tous les juifs... les juifs, c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils attendaient un événement particulier était attendu par tous ceux qui étaient croyants, qui étaient juifs. C'était un événement qui était central dans l'histoire, c'est la venue du Seigneur. Ils attendaient la venue du Seigneur, la venue du Messie, la venue de Dieu sur la terre, parce que toutes les prophéties avait indiqué cela. Pourquoi ça ne marche pas ? Il y a un truc, normalement ça devrait déjà être connecté. Il faut trouver aussi. Hein. De Gaulle disait, il faut pas. France n'a pas besoin de chercheurs, il faut des trouveurs. Voilà. Hein, c'était bien dit. Voilà. Ce que chercher, ça coûte cher, je paye des chercheurs. Mais c'est bien de trouver et puis de déposer des brevets, ça ramène de l'argent à la France. Enfin, ça c'est la politique. Quelqu'un peut regarder voir ce qui se passe. Normalement, il aurait dû trouver. Sinon, il y a d'autres techniciens dans la salle. Voilà. C'est en vacances. Ah, il faut peut-être réinitialiser. Allez, quelqu'un peut l'aider ? Donc, le parcours du temps, je vais essayer de le faire avec mon doigt. Le parcours du temps, c'est l'histoire du salut. Nous sommes tous dans l'histoire du salut. Dieu a voulu sauver l'humanité à cause de la chute. Donc, le temps est linéaire. Il va d'un bout à l'autre. Et au centre, il y avait ce point que les croyants de l'époque de Jésus attendait. C'était le retour, c'était le... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? C'était le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Or, le jour du Seigneur, il est venu, mais pas tout à fait comme les Juifs l'attendaient. Parce qu'ils attendaient que le Seigneur, qui allait venir, établisse son royaume. C'est pour ça que tout le monde, y compris les disciples, ont un peu harcelé Jésus. En disant, oui, mais Seigneur, quand est-ce qu'il viendra le royaume, hein? Et tous, y compris les disciples, attendaient le royaume, hein? Bien sûr, le peuple l'attendait, mais les juifs, les disciples aussi. Et ils parlaient qui serait à droite, qui serait à gauche, voilà, ils se voyaient déjà dans ce royaume, hein? Donc tout tourne autour du royaume. Et, merci beaucoup. Et donc, vous avez cette ligne qui est la ligne de l'histoire du salut, où il y a deux siècles, le siècle présent, dans lequel nous vivons, et le siècle à venir. Et au centre de cette histoire, il y avait, de l'histoire de l'humanité, il y avait effectivement le retour, le jour du Seigneur. Décidément, je parle du retour, c'est le jour du Seigneur. Mais Jésus a modifié, dans la tête des croyants. Il a modifié cette histoire de manière suivante. Il est venu plus tôt. Plus tôt que ce que les Juifs imaginaient. En fait, le jour du Seigneur, en gloire, il est précédé par la venue du Seigneur pour régler d'abord la question du péché, la justice. La justice de Dieu. Amen. Parce qu'il fallait que la justice soit réglée avant que s'établisse le royaume, le règne définitif. Alors ce terme dans vos Bibles, dans l'original grec, c'est basileia. Basileia, tout est où, c'est-à-dire le règne de Dieu. De Dieu. Le basileia. Et le basileia est l'engendre l'Église. C'est-à-dire le royaume. Le royaume de Dieu, il définit ce que c'est que l'Église. L'Église est liée au royaume, au basileia. Et pour bien comprendre comment fonctionne l'histoire du salut, c'est que le siècle présent, il y a eu une irruption dans ce siècle présent de Jésus. Jésus est venu il y a 2000 ans, il a fait irruption et il a prêché, comme d'ailleurs son prédécesseur l'avait déjà annoncé, Jean-Baptiste, le royaume de Dieu. Le royaume est venu parmi vous. Le royaume s'est approché de vous. Le royaume est venu. Et la conséquence de cette venue du royaume, c'est que les démons se sont commencé à manifester, parce qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc le diable et ses acolytes, ils le savaient. Ils ont commencé à crier pour se défendre, mais c'était fini pour eux. Donc le siècle à venir est venu dans le siècle présent. Et pour mieux définir cette histoire du salut, c'est que le siècle à venir, bien sûr, est supérieur en qualité que le siècle présent, puisque le siècle à venir, c'est le règne de Dieu. Et dans le règne de Dieu, il n'y a ni injustice, il n'y a ni mensonge, c'est un siècle parfait. Alors que dans le siècle présent, vous savez tous, puisque vous êtes de ce siècle, qu'il est imparfait, qu'il est rempli de méchanceté, de péché, etc. Et donc, l'Église, qui a pris naissance au moment de la résurrection de Jésus et de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, eh bien, a commencé, puisque l'Église est l'assemblée de tous les peuples, de toutes les nations, et pas seulement d'Israël. Et il s'arrête à la parousie, quand l'Église sera enlevée. Et donc, le jour du Seigneur, qui était bien prévu dans la tête des Juifs, va bien arriver avec le Seigneur en gloire. Et c'est le siècle à venir qui va continuer, puisqu'il n'a pas de fin. Le siècle à venir, c'est n'a ni durée ni fin. C'est le royaume de Dieu. Et donc, il faut bien voir qu'il y a deux siècles et l'Église chevauche ces deux siècles. Le basiléa, donc le royaume, le règne de Dieu, il est double. D'une part, il y a la révélation du règne de Dieu, et cette révélation a été donnée à Pierre le jour où Jésus a emmené ses disciples à Césarée de Philippe et leur a dit « Qui dites-vous que je suis ?» ou « Qui dit-on que je suis ?» et après « Qui dites-vous ?» Et c'est là que Pierre a eu cette révélation « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui a dit « Ce n'est pas toi, c'est mon Père qui te l'a révélé. » Il faut une révélation. Pour être chrétien, il faut avoir une révélation. Ce n'est pas simplement une intelligence, une connaissance, ça c'est au niveau de la religion, mais il faut une révélation. Il faut reconnaître que Jésus-Christ est roi. Et c'est une révélation du règne de Dieu, que ce n'est pas un règne dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Et dans le siècle présent, il faut expérimenter le règne de Dieu. Il faut l'expérimenter. C'est-à-dire, il faut recevoir les bénédictions aujourd'hui, mais Jésus ne règne pas sur la terre, ça se saurait. C'est Satan qui règne. Okay, mais dans nos cœurs, nous devons nous expérimenter le règne de Christ et le manifester au monde et être témoin de la puissance et de la grâce. Et pas témoin dans l'Église, parce que nous sommes l'Église, mais témoin dans le monde. Donc notre mission, ce n'est pas l'Église. Notre mission, c'est là où nous sommes, là où Dieu nous a placés, là où Dieu nous place, là où nous placera, et bien de manifester les œuvres. C'est pour ça que John Wimber, il disait, partout où vous êtes, dans le métro, eh bien, si quelqu'un est malade, vous priez pour lui et vous le guérissez. Vous le guérissez. Ne priez pas pour sa guérison, vous le guérissez. Il faut vraiment manifester les œuvres du royaume et chasser les démons, pas simplement prier pour que la personne soit libérée, mais il faut les chasser au nom de Jésus. Donc l'Église, elle est dans les deux siècles, siècle présent et siècle à venir, et elle forme deux assemblées. La première assemblée, c'est Jésus qui l'institue dans Matthieu 16. Lorsque Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », Jésus dit « Oui, tu dis bien ». Et c'est « Je bâtirai mon Église ». Il dit « Mon Église ». L'Église de Jésus, c'est l'Église de Jésus. Elle appartient à Jésus. C'est l'assemblée de ceux qui sont rachetés par et qui sont justifiés par le sang de Jésus. Donc c'est mon Église. Et c'est le règne de Dieu. Et nous sommes dans le règne de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Vous voyez, dans notre état d'être sauvés, nous sommes avec Christ dans le règne. Mais c'est un royaume qui n'est pas de ce monde. C'est un royaume qui est dans le siècle à venir. Et nous faisons partie déjà, nous pouvons déjà être en esprit dans le siècle à venir. Et ensuite, après, Jésus, il utilise deux fois le mot « église ». Deux fois, pas plus, pas trois, pas quatre, deux. La première, c'est quand Jésus dit « mon Église », donc c'est dans le royaume à venir. Et la deuxième, c'est quand il parle de la discipline dans l'Église, dans Matthieu 18. Il dit « voilà, si un frère a péché, reprends-le. Si tu n'écoutes pas, prends un autre frère avec toi. Si tu n'écoutes toujours pas, dis-le à l'Église. » Il ne dit pas « à mon Église », à l'Église. C'est autre chose. L'Église, ici, dans le cas présent, c'est pas dans le royaume de Dieu, c'est ici-bas. Si ton frère a péché dans l'église ou à côté de l'église, ou peu importe, si tu l'as vu pécher, tu le reprends. Et donc là, c'est l'église locale. C'est Matthieu 18 où Jésus parle de l'église. Donc il y a deux communautés qui n'en font qu'une dans la pratique, mais qu'il faut distinguer dans la compréhension de son organisation. Donc le premier, c'est le règne de Dieu. Le deuxième, c'est l'expérimentation, expérimenter le règne de Dieu dans la vie quotidienne pour la manifester au monde qui a besoin de voir. Et c'est pour ça que les églises en France qui ont vraiment percé, ils mettaient sur leur réunion « viens et vois ». Viens et vois. Viens et vois le règne de Dieu. Viens et vois le royaume de Dieu. Viens et vois les miracles. Viens et vois les guérisons. Viens et vois les délivrances. Ok ? Est-ce que vous voulez qu'on mette ça sur notre fronton ? Viens et vois. Il faut déjà voir à l'intérieur pour que on le montre à l'extérieur, mais le Seigneur commence à montrer. La preuve, c'est que les gens disent il y a de l'accueil ici. Et l'accueil, c'est cette qualité d'amour, de joie, de recevoir et de s'ouvrir. Mais le Seigneur va aller plus loin. Il veut faire des miracles, des guérisons, des signes, des prodiges. Amen. Vous attendez à cela pour que nous puissions mettre viens et vois. Donc l'Église appartient à deux siècles à la fois. Voyez-vous ? Le siècle présent et le siècle à venir. Le siècle à venir, alors j'ai donné une petite définition, c'est on appartient au siècle à venir par la communion spirituelle à Christ. C'est une communion spirituelle à Christ. En fait, cette table, elle est dressée justement pour que nous puissions avoir une communion spirituelle. Ça concrétise la communion spirituelle avec Christ. Cette table-là fait partie du royaume à venir. La preuve, c'est que Jésus a dit « Buvez-en tous, faites mémoire jusqu'à ce que je revienne. » Et nous boirons réellement à la table du Seigneur et nous mangerons, et ce sera un repas festif comme jamais nous n'en avons eu. Dans le meilleur des mariages, ce sera un mariage céleste. Amen. Vous avez envie d'être à cette table? Alors persévérez dans la foi. Amen. Voilà, donc c'est... dans le siècle à venir, nous le sommes par la communion à Christ, par la nouvelle naissance, la réception du Saint-Esprit, l'appartenance au corps de Christ, dont lui est la tête, et ça s'appelle aussi l'Église universelle de Jésus-Christ, de tous les temps, si vous voulez, qui ne peut jamais être réunie sauf à la fin. Mais on ne peut pas réunir l'Église universelle. Ce n'est pas l'Église internationale, c'est l'Église universelle de tous les temps qui ne fait qu'une. C'est une monarchie. Cette monarchie, elle a un roi qui est parfait. Amen. L'idéal de la monarchie, c'est d'avoir un roi parfait. Mais ça n'a jamais existé, sauf dans les légendes ou dans les contes de princesses, mais pas dans la réalité. Mais là, c'est une réalité, c'est une monarchie royale. La congrégation, qu'on appelle comme cela, en est une manifestation locale. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis en congrégation. Nous sommes une manifestation locale de cette Église universelle et nous prenons la scène ensemble. C'est le culte apporté au Seigneur. On appelle ça une congrégation locale. C'est la partie visible, bien que mélangée. Le problème, c'est que l'Église universelle, le corps est parfait. Mais seul Dieu les connaît. Seul Dieu connaît les siens, comme on dit. Parce que dans une congrégation, on est ouvert et n'importe qui peut rentrer. Moi, je ne sais pas qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Qui est converti, qui n'est pas converti. Parce qu'une particularité qu'on apprend en sociologie, c'est que le langage de l'homme est par nature mensonger. Il est mensonger. Avec la langue, on peut mentir comme on veut. On peut dire que je suis sauvé. Je peux dire j'adhère à la confession de foi d'une église sans pour être sauvé. Ouais, c'est facile. Il suffit de dire j'adhère à la confession de foi. Si mon intérêt c'est d'appartenir à cette congrégation, parce qu'il y a des bénéfices à retirer, parce qu'il y a un tas de choses. Regardez Constantin. Constantin, le premier empereur qui s'est romain, qui a arrêté la persécution des chrétiens, c'est en 426, je crois, qu'il est monté au pouvoir. Il a décrété qu'à partir de donc 5e siècle, il a décrété que maintenant la religion de l'État, c'est la religion chrétienne, parce que lui s'est converti parce qu'il a gagné une bataille. Il ne s'est pas forcément converti parce qu'il a rencontré le Seigneur, mais il a gagné une bataille. Vous savez, à l'époque, c'était important de gagner les batailles. Voilà, il a prié le Dieu de sa femme. Je ne sais pas comment elle s'appelait. Je ne me rappelle plus. Et il a gagné la bataille. Donc, il a dit, maintenant, je suis chrétien. Tout le monde, tout l'État, tout l'Empire romain sera chrétien. Imaginez que la plupart des gens sont devenus chrétiens. Ils avaient tout intérêt. Ils avaient des postes dans l'administration. Ils avaient des faveurs du roi, tout ça. Et ils étaient plus... Voilà. Donc, vous comprenez. Dans la congrégation, rentrent des gens qui ont des intérêts. OK ? Donc, c'est la religion. Et dans toute congrégation, on ne peut pas faire la différence, sauf quand on connaît bien les gens, de ceux qui sont vraiment sincères et de ceux qui ne le sont pas. Donc, la congrégation est une assemblée mélangée avec des personnes religieuses et des personnes sauvées. Le siècle présent, dans le siècle présent, L'Église est une communauté fraternelle de frères et sœurs en Christ. C'est une communauté humaine, comme toute communauté humaine. Vous voyez, là, rien de particulier, si ce n'est qu'elle doit expérimenter les bénéfices du royaume. Elle est appelée à ça en tant que mission. Donc c'est une communion fraternelle par l'adhésion à l'Église locale qui a ses lois propres, qui a des règles propres. Ici, on commence le culte à 10 heures. En Corée, je ne sais pas. En Chine, je ne sais pas. Voilà. Vous voyez, c'est juste pour un exemple de loi. Mais c'est normal. En tant qu'humain, on a des lois. Et c'est l'association, ce n'est pas une monarchie, c'est une association qui est la forme la plus appropriée à ce genre d'assemblée fraternelle. L'Église, elle est composée de deux familles distinctes. Donc je dis les choses de manière un peu différente de ce que j'ai dit précédemment, mais c'est la même chose. La famille, parce que toute famille a un père. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens, va dire « Je plie le genou devant le Père, de qui toute famille tire son nom. » Donc une famille, c'est quelqu'un qui a un Père. Et nous avons tous un Père, c'est le Père Céleste. Et le Père Céleste, il a décidé de nous sauver, et il a donné Christ, son Fils, comme celui qui nous a sauvés. Et lui, il a constitué un corps. Donc Christ a constitué un corps. Et cette famille met l'accent sur les relations avec la tête. Christ est la tête. Donc, dans une congrégation, nous sommes en face d'une hiérarchie qui est Christ. C'est tout. Nous et Christ. Et c'est le sacerdoce universel que la Réforme a mis en valeur. C'est le cas de l'Église de Jésus-Christ, spirituelle, invisible, universelle, ou Église, congrégation. L'autre, c'est une famille maison, de type maison. Maison, c'est une famille. Sauf que c'est une famille qui a un patrimoine. Ce n'est pas simplement une famille comme ça, SDF. C'est une famille qui a un passé, un présent, un avenir. Donc c'est une maison qui met l'accent sur les relations au niveau des personnes et la transmission d'un patrimoine et d'une autorité. C'est le cas d'une famille naturelle qui a des parents qui sont l'autorité et d'une famille fraternelle chrétienne ou l'Église Association sur laquelle on travaille avec Arnaud pour la rentrée. L'Église est une famille composite. Composite au sens où, là, on a disséqué les choses pour bien comprendre qu'il y a deux siècles, il y a deux natures, il y a deux systèmes d'Église, mais en fait, c'est une seule. Okay, puisque c'est les mêmes personnes. Vous qui êtes assis là, si vous revenez dans un autre cadre ici de l'Église locale, vous êtes toujours les mêmes. Okay. Donc c'est une famille composite qui est composée de un, vous êtes un en Jésus-Christ dans le siècle à venir, il n'y a pas de, vous êtes un corps, vous n'êtes pas plusieurs, donc un corps, une épouse, un troupeau, un seul peuple, un seul Seigneur, comme le dira, un seul baptême, etc. Et on est des, on est plusieurs d'églises locales. Il y a une église locale à Aubergenville, il y a une église, plusieurs églises locales au Mureau, il y a plusieurs églises, etc. Vous voyez, et nous sommes différents. Nous sommes différents. Cette église locale n'a pas les mêmes lois, n'a pas les mêmes règlements, n'a pas les mêmes points de doctrine, etc. Ce sont des fraternités dans des localités, des lieux, des maisons. Alors je vais vous présenter le modèle. Un modèle, c'est quelque chose à partir duquel vous pouvez expliquer des choses. Expliquer, et je vais vous expliquer tout à l'heure la persécution du chrétien. Puisque c'est l'objet d'aujourd'hui, pourquoi nous sommes obligés d'être persécutés. C'est une obligation. Un chrétien pieux en Jésus-Christ, la Bible dit, nous serons persécutés. Ok, donc je vais vous montrer en quoi nous serons persécutés. Donc d'abord le modèle, et ensuite après l'explication. Donc le modèle, c'est tout d'abord, le siècle à venir, qui est le siècle invisible, spirituel. Et de l'autre côté, donc un trait est de l'autre côté, je vous présente le siècle présent, donc un visible formé d'humains qui sont imparfaits. De l'autre côté, c'est parfait, ici c'est imparfait. Donc le siècle à venir, qui est là, et le siècle présent. Dans le siècle à venir, c'est le corps. Je je viens d'en parler, hein, je ne reviens pas dessus. Et dans le siècle présent, il y a des familles. Il y a des familles. C'est-à-dire des maisons, si vous voulez, des familles. Et comme je le disais les dimanches d'avant, une maison, par exemple, si on présente dans la maison des champagnes, c'est ceux qui continuent à faire du champagne. S'ils arrêtent de faire du champagne, ce sera une famille. La famille Mercier est une maison, la maison Mercier, mais redeviendra famille. Famille Meyer, c'est encore une famille, c'est pas une maison. Vous n'avez pas des châteaux, des terres et tout ça, non. Bon, donc vous n'êtes pas une maison. Vous n'avez pas encore. Voilà. Mais peu importe, nous avons une maison dans le ciel. Amen. Mais voilà, la différence entre maison et famille, c'est qu'il y a un patrimoine à léguer. Dans le corps, la représentation, c'est un corps. C'est les fonctionnalités d'un corps, un membre, etc., qui souffre, etc. Rappelez-vous toute cette comparaison dans la Bible, qui est le corps et qui a une tête. Voyez-vous qu'il n'y a qu'une tête, il n'y a pas deux têtes. Il n'y a pas le pape et puis le pape pentecôtiste et le pape protestant, je ne sais pas. Il n'y a qu'un seul pape, c'est lui Christ. Hein. C'est lui le chef suprême de l'Église universelle dont nous sommes les membres. Voilà. Et par contre, il y a un autre royaume qu'il faut citer dans le siècle à venir. C'est le royaume de Satan. Alors le royaume de Satan, il est sous les pieds, non pas de l'Église locale, mais il est sous les pieds de l'Église universelle. Alors, parce qu'on est dans le domaine spirituel. Donc on ne peut pas nous écraser Satan avec nos pieds. C'est Jésus qui le fait. Amen. C'est Jésus avec son corps. Nous coopérons à chasser les démons. Mais nous ne chassons pas les principautés, par exemple. Vous voyez, donc il y a des limitations. Mais c'est le royaume aussi de Satan qui est dans le côté du siècle à venir. Ensuite, dans les maisons, il y a la maison Église. Comme je l'ai dit, c'est une famille fraternelle dans laquelle se trouvent les frères et les sœurs en Christ. Ça, c'est la maison Église. Et il y a la maison foyer. Le foyer, c'est ce qui a toujours existé, c'est un père, une mère, des enfants. C'est pour élever des enfants. Seulement, le foyer est temporaire. Hein. Il y a des parents qui se croient encore parents quand ils ont 80 ans. Hein. Rappelez-vous que vos enfants, si vous avez 80 ans, vous les avez eus à 20 ans, hein, c'est des adultes. Voyez-vous. Et c'est pour ça que quand je fais des mariages, à la fin, une fois qu'ils sont mariés, je demande aux parents de respecter maintenant le fait que les mariés sont des adultes et qu'il faut parler d'adulte à adulte. Mais très souvent, on parle d'adulte à enfant. Voyez-vous. Même si l'enfant. Il y a, je crois, dans notre mairie à Saint-Martin-la-Garenne, il y a une maman qui avait 100 ans, ou centenaire, et son fils avait 80 ans. Elle a dit « Ah, c'est triste d'avoir un fils qui est vieux. C'est terrible d'avoir un fils qui est vieux. Pourquoi ? Parce qu'elle a été plus vaillante que son fils. Donc il fallait qu'elle prenne soin de son fils qui avait 80 ans. Pardon ? Il avait des problèmes cardiaques. Donc ne soyons pas des parents. La maison foyer s'arrête en termes d'éducation, je parle, parce que l'éducation, c'est donner la sociabilité à l'enfant, c'est-à-dire lui donner les règles, lui apprendre les règles à vivre en société, avec un certain nombre de lois. Mais une fois qu'il est adulte, il faut le respecter comme adulte, et ça c'est très très difficile. Surtout pour les mamans, parce que il y a des mamans qui portent les enfants, donc ils s'en rappellent jusqu'à la fin de leur vie, qui les ont portés. Mais le père aussi. Parce que le père, d'un seul coup, il se réveille quand l'enfant commence à avoir besoin de lui, mais il ne se rendort plus. Vous voyez, il faut après devenir d'adulte à adulte et avoir une relation d'adulte à adulte. Et ça, c'est très très compliqué. Donc le foyer est temporaire. Les maisons églises d'ailleurs aussi. L'église locale, elles sont là pour soutenir les adultes, mais d'une autre manière. Donc, je définis la congrégation comme étant une émanation de l'église universelle, mais comme je le disais, avec une société mélangée. C'est certes des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, mais aussi d'autres qui viennent, en particulier des foyers. Souvent, il y a des familles qui adhère de famille chrétienne, qui adhère à l'Église, parce que ça fait bien. Oui. Donc on rentre dans la religion, parce qu'ils sont catholiques, il faut aller dans une église catholique. Il faut, on est protestant, il faut adhérer à une église protestante. On est évangélique, il faut adhérer. Et où c'est une adhésion sociale pour montrer qui on est. Donc il y a des gens de famille qui sont dans des congrégations et qui polluent en guillemets la congrégation. Bon, bien sûr, on prie pour eux pour qu'ils soient sauvés, mais on est obligé de les accepter puisqu'ils viennent librement. C'est une église ouverte, en tout cas dans cette acception du terme. Mais il y a un deuxième niveau dans l'église qui est l'association. Des gens qui s'associent. Et ça, on le voit dans Acte 2. Acte 2, 43. Les chrétiens se trouvaient dans les maisons, ils étaient tous un. Et d'un commun accord, ils se retrouvaient le matin, la prière pour le repas du Seigneur, etc. Lisez Acte 2 et vous verrez la première communauté, elle s'est associée sur la règle du commun accord. On est tous d'accord pour vivre ça. Et quand il y avait des désaccords, ils le réglaient d'une certaine manière. Ils faisaient des synodes, ils se retrouvaient à Jérusalem, ces désaccords, pour retrouver l'accord, pour retrouver le commun accord. Amen. Attendez, il faut que je suive mes notes parce que sinon je vais être perdu. Vous suivez pour l'instant? Bon. Alors, la première, la congrégation, on y adhère par la foi. Il y a juste la foi qui suffit. La deuxième, c'est les œuvres. Là, on est supposé faire des œuvres, c'est-à-dire démontrer la foi pour le monde. Ce n'est pas pour nous. C'est pour que le royaume de Dieu soit manifesté au monde. Voyez-vous ? Notre objectif, ce n'est pas de chauffer des chaises. Ce n'est pas de venir à l'église pour venir à l'église. Ça, c'est bien le dimanche, parce qu'on vit le rassemblement pour adorer, louer le Seigneur, être enseigné et recevoir des révélations nouvelles pour la semaine qui vient. Mais c'est toute la semaine où est notre mission d'église locale qui est associée. Nous devons être ouverts au monde dans tout ce que nous faisons dans le monde, hein, qui sont les nations, pour que nous puissions vraiment dire que nous sommes une église locale. Alors, je vais arriver à la persécution en passant par des espaces. Alors, il y a plusieurs espaces dans lesquels évoluent ces deux types d'églises. L'espace public, nous sommes ici dans un espace public, où nous recevons des gens parce que nous disons, voilà, venez à l'église, vous allez entendre la bonne nouvelle, vous allez rencontrer les frères et sœurs, vous allez, si on fait de l'évangélisation, entendre le message du salut, si on fait de l'édification, vous allez pouvoir être édifié sur tel sujet, si nous faisons des thèmes d'éthique sur la famille ou sur la politique, voilà, etc., etc. Donc nous sommes un espace public. Et nous recevons du public, et pour ça nous faut des locaux qui soient appropriés, recevoir du public, puisque nous avons l'autorisation de l'État pour le faire. Mais nous avons aussi un côté privé. Privé, c'est ce qu'on dit, on lâche le linge sale en famille, hein. C'est-à-dire que c'est privé, c'est-à-dire que c'est pas ouvert aux autres, c'est quelque chose où là, on définit les programmes, on définit ce qu'on va faire. Au niveau des jeunes, au niveau des femmes, des hommes, etc., ce qu'on fait ensemble. Et là, on le fait non pas avec le public, on le fait avec les gens qui sont des disciples, qui sont engagés avec le Seigneur. Alors, quels sont les enjeux? Et c'est là qu'on arrive à la persécution. Les enjeux, c'est que cette église, alors je vais parler de l'église locale, donc association. Pourquoi? Parce que l'église congrégation fait partie du public qui, vous allez voir, que ça peut être un ennemi qui persécute. Hein. Donc l'église locale, où ici il y a les disciples, hein, à cet endroit-là, ce sont les disciples qui veulent suivre Jésus-Christ ensemble et qui acceptent que le frère veille sur l'autre frère ou la sœur pour le reprendre. Waouh ! Ça s'appelle la discipline. Ça s'appelle. Alors, Aujourd'hui, on a, comme mai 68 a passé, on ne peut plus entendre parler ni d'autorité, ni de discipline, ni de tout ça. Mais vous savez que Calvin, au XVIe siècle, vous savez comment il appelait ça ? La police. Ah, si aujourd'hui on disait, voilà, on va faire la police dans l'église, au XVIe siècle, moi j'ai les textes, c'est marqué la police. La police. Il y avait une police. Et il appelait les principes de la police. Et aussi la discipline. Discipline. Voilà, c'est une autre époque. Une autre époque. Mais rappelez-vous que le Nouveau Testament parle de discipline. Le problème, c'est qu'on s'est éloigné très loin. Hein, parce que l'homme est homme et il a mal géré la discipline. Ce qui fait qu'on a une mauvaise opinion de la discipline. Mais la vraie discipline, ça veut dire quoi, Sylvestre ? Tiens, je vais te faire participer ce matin. Alors, est-ce que tu as fait du latin, du grec et de l'hébreu ? Bon, ben alors, tu as ta place, t'as pas, là, c'est pas ici. Non, je plaisante. Voilà. Mais discipline, ça veut dire enseigner. Ça veut être enseignable. C'est l'enseignabilité. Et les juifs l'ont bien compris. Parce que quand ils avaient une ribambelle d'enfants autour d'eux, ils appelaient l'enfant intelligent, pas l'enfant qui était le premier de la classe, pas l'enfant qui réussissait à Polytechnique ou je sais pas quel concours, mais l'enfant qui posait des questions. Waouh ! Vous voyez, on en est loin de ça. Parce que quand vous posez des questions à l'école, on vous dit, oui, c'est toujours lui qui pose des questions. Attends, l'autre qui répond, c'est celui qui répond. Non, non. Dans la Bible, c'est lui qui pose des questions. Pourquoi ? Parce que quand on pose une question, on cherche, on est prêt à recevoir. Quand on répond, ben on veut savoir, on est dans l'orgueil. Voyez ? Non mais c'est juste la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes, voyez, c'est pas tout à fait la même. Poser des questions. Aucune question n'est bête, mais posez des questions. Cherchez et vous trouverez. Ça c'est la règle de base d'un disciple qui écoute son maître. Donc on est dans le discipulat. L'église locale, associative, c'est celle qui forme des disciples. Okay ? Parce qu'on a le droit de les former, parce qu'on a des lois, on a des règles, on a une police, si vous voulez, même si on ne l'appelle plus comme ça, mais elle est là quand même, pour permettre de former des disciples. Okay. Mais il y a un enjeu autour qui veulent tout sauf qu'on soit des disciples. Vous rendez compte ? Nous, on fait des efforts pour être un disciple et tout le monde nous décourage. Ben voilà, c'est ça la persécution. Tout le monde nous décourage d'être des disciples. Alors on va commencer par le premier qui nous décourage. Enfin, je ne sais pas si c'est le premier en importance. C'est le foyer. Hello. Il y en a qui ont vécu ça, que votre propre famille vous persécute. Moi le premier. Dès que je me suis converti, j'ai accepté Jésus, c'est la porte. Mouton noir, je suis devenu noir. T'es blanche, tu es devenue noire. On ne veut plus te voir chez moi, chez nous, etc. Et parce que j'ai renié ma famille. Simplement, j'ai accepté Jésus-Christ. Et le premier ennemi, c'est la famille. Et Jésus le dit. Jésus le dit. Il a dit, ce sont... Alors, où est-ce qu'il y a le verset en question ? Je ne les ai pas notés ici, je les ai notés ailleurs. C'est Matthieu. Matthieu... Il y a tout dans Matthieu, parce que Matthieu, c'est le royaume de Dieu. Donc, on trouve tout. Je crois que c'est Matthieu 10. Je parle de mémoire. Voilà. Dans Matthieu 10, verset 34. Voilà ce que je lis. Je n'invente pas, je lis. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Waouh ! Jésus est venu apporter l'épée. L'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. C'est précis en plus. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Eh oui. Moi j'avais un enjeu à ce moment-là. Ou faire de la peine à mes parents, ou me positionner en disant, moi je veux suivre Jésus-Christ. Or j'ai fait le premier choix et je ne le regrette pas. Parce que mes parents, pendant 10 ans de persécution, d'un seul coup, Dieu leur a parlé et s'ils sont retournés. Et après, moi je l'ai entendu, à peine peut-être, je sais pas, quelques mois avant la mort de ma mère, qui est morte à 91 ans, il a dit, ma femme est plus qu'une fille pour elle. Parce qu'elle ne pouvait pas partager avec sa propre fille et ses propres enfants ce qu'elle partageait avec ma femme. Oh. Retournement de situation. Mais, persécution. Si j'avais lâché prise, je ne serais pas devant vous, Lucie. Je serais dans l'église catholique, je serais peut-être, je ne sais pas quoi. Peu importe. Mais, les gens de la maison persécutent. Et alors, il dit, il y a un enseignement. Jésus, il enseigne, c'est un maître. Il prend une expérience, il enseigne. Et c'est quoi l'enseignement? Waouh, faut l'avaler, attention, hein, accrocher. Tom, accroche-toi à la chaise, là. Voilà, voilà. Écoute, celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Waouh, tu t'es accroché, là? Reste accroché. C'est pas fini. Celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Parce que celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Ouais. Il nous attache générationnel, familial, naturel, qui viennent de notre sang. Si en quoi que ce soit elles sont supérieures, c'est fini, on n'est plus disciple de Jésus. Voilà. Il y a des personnes qui arrachent la page de ça, hein. Surtout les gens religieux, parce que ils aiment bien aller dans la congrégation, hein. On le verra après. Donc je ne sais plus où j'en suis. Le deuxième ennemi, c'est le mensonge. Alors là, c'est le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Et le diable, il n'arrête pas à inventer des mensonges. Vous voyez, le problème de la vérité, c'est qu'il n'y a qu'une vérité. Mais des mensonges, il y en a plein. Des pleins. Vous pouvez inventer des mensonges les uns après les autres. Alors le diable, il est expert. C'est pour ça qu'on dit le diable, il est expert en théâtre. Voyez-vous les théâtres? Vous connaissez les théâtres? Vous voyez une scène de théâtre très très belle. Par exemple, comment s'appelle le truc de Tchaïkovski là? Casse-noisette de Tchaïkovski, c'est ça? Où il montre les paysages, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, c'est ça, non? C'est un ballet même. Bon, je me trompe? C'est pas ça? Les quatre saisons? Non, c'est pas Vivaldi, ça c'est. Non, il y a les saisons. Enfin bref. Je pensais que c'était Casse-noisette. Mais à un moment donné, vous voyez un paysage d'hiver là. La neige, les trucs, les machins, etc. Voilà, la scène est finie. Rideau. Quelques minutes après, ça s'ouvre. Waouh, le printemps. Super génial. Waouh, les fleurs qui poussent, les machins, c'est incroyable, fantastique. Rideau fermé. Ça s'ouvre l'été. Extraordinaire. Vous vous rendez compte? Juste en une soirée. Voilà. Eh bien, Satan, il est expert en théâtre. Il vous montre une scène. Waouh, génial, super, machin, etc. Waouh. 2 minutes après, vous voyez une autre scène. Et du mensonge. C'est un illusionniste. Si vous n'avez pas encore expérimenté ça, je peux vous dire, c'est incroyable. Moi, j'ai vu ces trucs, mais c'est hallucinant. Hallucinant. Père du mensonge. Donc, il va vous instiller des mensonges. Des mensonges en permanence. Tu n'es rien, tu es grosse, tu es petite, tu es ceci, tu es idiote, tu es machin, etc. Souvent, il utilise d'ailleurs des paroles que des hommes ont prononcées. Mais il va vous le faire croire. Et si vous le croyez, vous êtes pris dans le piège. Mais si vous utilisez la parole, vous dites, je suis une merveilleuse créature. Dis-le à ton voisin, je suis une merveilleuse créature. Voilà. Ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que le canon de ce qui est beau, qui est défini par les hommes, peuvent changer. Vous savez, les femmes, au XVIIe siècle, elles devaient être grosses. Ah oui, sinon, rondes, sinon, étaient nulles. Aujourd'hui, il faut qu'elles soient filaires. Alors, c'est quoi le canon? C'est le XVIIe siècle qui a raison ou c'est le XXIe siècle? Cherchez l'erreur. C'est un illusionniste. Jésus dit, la parole de Dieu dit, tu es une... Qu'est-ce qu'il dit? Tu es une... Et dit pas, si tu es grosse, ou si tu es mince, tu es une merveilleuse créature. Vous avez entendu ça? Alors, qu'est-ce qui ment? Qu'est-ce qui ment dans l'histoire? Ben oui, c'est Jésus. Ou c'est le diable? Mais on croit plus le diable. Non, non, c'est vrai ce que je vous dis. La chair croit plus le diable. Parce que il y a quelque chose d'excitant, vous voyez. Parce que ça change. La vérité change, vous voyez. Ça change. Voilà. Le problème de la mode, c'est que souvent ça revient. Il y a des pantalons qui ont des rebords, et puis 10 ans après, ils reviennent avec des rebords. Entre-temps, ils ont passé sans rebords. Bon, parce qu'on ne s'est pas trop inventé, on n'a peut-être pas encore inventé d'autres frisettes, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est tout ce que l'homme peut faire. Il peut changer, mais inventer. Jésus invente, Dieu invente, il crée. Mais le diable, il ne crée pas. Il fait l'illusion. Allons plus loin. La deuxième persécution vient des traditions religieuses. Les traditions religieuses. Oh, quelle tradition dans les églises. La tradition catholique, la tradition protestante, la tradition évangélique, la tradition pentecôtiste, la tradition baptiste, toutes sortes de traditions. Et toutes ont une certaine valeur au moment où elles ont été créées. Non pas de manière perfide, c'est vraiment parce qu'il y avait une valeur, mais elles sont devenues une tradition qui est bonne quand elle reste. C'est comme la manne, elle pourrit, voyez-vous, parce qu'elle devient un code de conduite. Or nous, on doit toujours rester en relation avec le Seigneur. Donc la congrégation, elle amène une persécution par la tradition religieuse. Tradition familiale, j'en ai parlé tout à l'heure. Waouh. Tradition familiale. Oh là là. Le poids, c'est dingue. C'est dingue. C'est pour ça que Paul, quand il s'adresse à des pasteurs, il y a 3 épîtres qui ont été écrites à des pasteurs, Timothée et Tite. 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. Il dit, choisis des anciens. Donc les anciens, c'est eux qui dirigent cette église association et pas l'église congrégation. Il dit, prends-les s'ils sont de bons pères de famille, s'ils ont fait leur preuve dans une famille déjà, si les enfants ne sont pas rebelles. Parce que les enfants qui deviennent rebelles, pourquoi ils deviennent rebelles? Parce que on les enquiquine tellement. Père, n'irritez pas vos enfants. C'est adressé au père, pas aux mères. Eh oui. Pourquoi? Mon père, il avait l'art de mériter. Voilà. Pour toutes sortes de raisons, mais par exemple, il était chaudronnier. Et les chaudronniers, vous savez, ils tapent avec un marteau. J'ai jamais vu autant de marteaux de ma vie, des marteaux partout. Parce que chaque fois, il prenait un marteau, toutes les 5 minutes, il changeait de marteau, puis il tapait. Parce que chaque petit coup donnait une forme. Et il faisait des formes incroyables. Avec les chaudrons en cuivre. Là. Voilà. Et moi, je devais être là pendant 10 heures à le tenir, parce qu'il faut tenir, parce que action, réaction, le machin, il réagissait, donc il fallait que je tienne. Donc il fallait, un petit gars, moi j'étais là. Et pendant ce temps-là, dans mon cerveau, j'avais mon copain, le meilleur copain, il avait perdu son père, bon, dommage pour lui, mais il faisait ce qu'il voulait. Il faisait des avions. Il faisait voler, il faisait des bateaux radio-télécommandés. Il était très inventif et moi on faisait des kartings, on descendait les trucs, voilà, on faisait des trucs. Je dis, mince, lui est en train de faire ça, mais je suis en train de faire ça, bah, tac, 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 voilà. Bon, ça m'a pris la patience, vous me direz. Mais bon, cher payé, hein. Bon, il m'irritait parce que, voilà, il voulait absolument que je reste là. Voilà. Père, n'irritez pas vos enfants, surtout s'ils sont adultes. Alors là, ils ne sont plus sous votre gouverne vraiment. Il faut vraiment les traiter en adulte et leur expliquer les choses. Voilà. Bon, je termine là-dessus. Ce n'est pas un message sur la famille, c'est un message sur la persécution. Mais la persécution vient des traditions familiales. Et enfin, la persécution vient du monde. Et cette persécution, ça s'appelle la sécularisation. La sécularisation, ça veut dire le siècle présent sans Dieu. On veut vivre sans Dieu. C'est l'athéisme, à la française ou à l'égyptienne ou tout ce que vous voulez, peu importe, ou alors vivre pour un autre dieu, c'est l'idolâtrie, c'est pas mieux, ou les musulmans ou autre, peu importe, mais c'est la sécularisation. Et là, c'est une persécution aussi, parce qu'il faut être comme le monde. Si tu n'es pas habillé comme le monde, c'est pas bon. Si tu suis comme le monde... Donc vous voyez, le chrétien, le disciple, est pris dans toute cette sphère de persécution, plus ou moins importante. En tout cas, celle-là, elle est toujours. Tradition religieuse, ça dépend du choix de votre église locale, congrégation. Le monde, ça dépend où vous êtes aussi, hein, des pressions plus ou moins fortes, etc., etc. Alors, quelle est l'attitude à avoir ? L'attitude du chrétien, dans la congrégation, il est passif. C'est pour ça que la congrégation ne peut pas être l'ensemble de l'Église. Passif au sens, il vit de la grâce. Il vit de la grâce. Est-ce que quelqu'un parmi vous s'est sauvé lui-même ? Non ? Est-ce qu'il a reçu le salut en Jésus-Christ? Oui, c'est la grâce. C'est, vous voyez, on a besoin de rien faire. À tel point que quand on annonce ça aux gens du monde, ils disent, mais c'est trop facile. Ouais, tu acceptes Jésus, voilà, tu es sauvé, c'est quoi ça? Non, il faut faire quelque chose pour Dieu, il faut apporter des offrandes, il faut faire, comme pour les idoles, tout ça, voilà. Mais gratuit, non, ça n'existe pas. Eh ben oui, nous sommes sauvés par grâce. Amen. C'est pas grâce. Et ça, c'est la congrégation. C'est pour ça aussi, nous, on ne demande rien à personne qui rentre. On ne demande pas, on met pas un tronc en disant il faut donner temps pour venir, etc. Non, c'est ouvert. Et c'est ouvert à tous. Et c'est par grâce qu'on reçoit le salut en Jésus-Christ. Amen. Mais Luther, par exemple, a beaucoup bataillé avec ça parce qu'il venait de l'Église catholique. Et l'Église catholique, c'était un moine très très sincère dans l'Église catholique. Ce qui l'a choqué, c'est quand il est allé à Rome. Malheureusement, il s'est déplacé à Rome pour voir ce qui se passait là-bas. Et à Rome, à l'époque, ils construisaient la basilique de Saint-Pierre. Et là, c'est un coût astronomique. Tu imagines, déjà aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un des plus hauts dômes du monde. Enfin, c'est un truc. Il y en a qui sont jamais allés à Rome. Jamais allé à Rome? Bah allez-y. J'y suis allé, j'avais 16 ans, je crois. C'est... Ah, vous êtes là. Incroyable d'avoir fait des trucs comme ça. La chapelle Sixtine, enfin, c'est des monuments de beauté, quoi. Voilà. Mais l'argent, il était tiré d'où? Qu'est-ce qui a payé tout ça? Bah c'est le peuple. Les peuples qui vivaient dans la misère. Et en plus, on a inventé un système d'indulgence. On a dit, toi qui as péché, si tu donnes tant d'argent, eh bien, on va t'enlever tant de jours dans le purgatoire. Voilà. Tu as besoin de 2000 années de moins. C'est super, ça. Si tu fais mieux, tu en as 4000 de moins. Mais comme tu en as 1 million, bon, il faut que tu continues à donner. Voilà. Avez-vous un système incroyablement pervers, utilisant la religion, la gloire de Dieu, pour se faire une gloire terrestre. Ça, Luther, ah, ça passait pas. Là, ça passait pas. Il y en a qui ont vu le film Luther, mais très bien fait. Là, ça passait pas. C'est pas possible. Je peux pas servir une église comme ça. Il faut réformer tout ça. Donc, il s'est mis à réformer, et vous connaissez la suite, hein, les thèses de Luther. Je sais pas pourquoi je parlais de Luther. La grâce, la grâce. Mais Luther, dans ses écrits, il a démoli Jacques. L'épître de Jacques, il a dit, c'est pas possible, c'est une erreur d'avoir écrit une épître comme ça. Et dans ses écrits, parce que Luther avait un discours très fleuri, hein, comme on dit aujourd'hui. Il parlait avec des mots qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui. Et il a dit, l'épître de Jacques, c'est une épître de paille, c'est-à-dire il faut la brûler. Alors pourquoi il disait l'épître de Jacques est une épître de paille? Alors attention, Calvin ne l'a pas dit. Hein, parce que Calvin, c'est un juriste. Hein, lui, c'est un moulinet là-haut. Et il comprenait le droit et l'autorité. Mais Luther disait c'est une épître qu'il faut brûler Parce que elle parle du salut par les œuvres. Waouh ! Je retourne au catholicisme, et donc le catholicisme a raison. Il est en train de combattre le catholicisme, et il faudrait qu'il accepte l'épître de Jacques comme un substitut à la grâce. Donc, ça n'a pas passé. Jusqu'à sa mort, ça n'a pas passé. Mais ce qu'il n'a pas compris, malheureusement, comme quoi les plus grands hommes de Dieu, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, il faut la révélation. Calvin l'a compris. Calvin, dans son... une institution chrétienne, il dit que le chrétien doit être actif. L'activité du chrétien, c'est une coopération avec la grâce. Il faut coopérer à la grâce de Dieu, en comptant sur sa grâce, sur son secours, pour manifester les œuvres du royaume. Et on est dans le siècle présent. Pour manifester les œuvres du royaume dans ce temps présent, il faut faire des efforts. Hein, Bruno ? Tu te lèves tous les matins pour aller au travail. Tu préférerais passer tes vacances, c'était plus cool. Dans le Périgord et tout ça. Ben voilà. Hein, Philippe ? Pareil. Tous les matins, Bristol, machin et tout. Il faut faire des efforts. Eh ben, dans l'église locale, il faut faire des efforts. Des efforts pour joindre à la foi, c'est la grâce, la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ, toutes les vertus chrétiennes, il faut aimer ton prochain, il faut supporter les faibles, il faut supporter ta femme et ton mari. Non, j'ai pas dit ça. Il faut, voilà, il faut se supporter, il faut la patience, etc. Ça, c'est les œuvres. C'est les œuvres du royaume. Ah, c'est plus facile de dire c'est la grâce, c'est la grâce. Moi, je suis ce que je suis. Un mauvais caractère, je garde mon mauvais caractère. J'ai envie de te mettre un point dans la figure, je te mets un point dans la figure. Ah, c'est pas moi, c'est ma nature. Voilà. Eh oui. Pardon ? Non ? Ça te dit quelque chose ? Tu connais ça ? C'est amusant. Ouais, malheureusement, il y en a qui le font. Tac ! C'est pas moi. C'est mon réflexe. Tac. Non, mais on rigole, mais il y a des chrétiens qui se comportent comme ça. La grâce de Dieu. Voilà, ça suffit. Et je suis ce que je suis. Tu n'as pas à me dire quelque chose. Si tu me reprends, eh bien, je te fonce dedans. Eh oui. Alors que la Bible est remplie de dire « Soumettez-vous les uns aux autres. » Suis-je le gardien de mon frère ? Oui, tu es le gardien de ton frère. Parce que justement, tu vas l'amener au discipulat. Amen. Donc, il y a un côté actif, passif, et j'ai oublié l'autre attitude, c'est l'attitude d'intimité avec le Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez compris un petit peu mieux pourquoi nous sommes persécutés ? On va lire encore Matthieu 13, 47 et 48, qui explique la tradition religieuse. Matthieu 13, 47 et 48. Le royaume des cieux, dit Matthieu, est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied. On recueille dans les vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Ça s'appelle quoi ça ? Vous avez vu sur les bateaux de pêche, ceux qui étaient près de la mer, hein, on jette des poissons soit à la mer ou on les met dans des... on fait un tri. Dans l'église congrégation, il faut faire un tri. Eh oui. Parce que les mauvais poissons, ils vont polluer les bons poissons. Donc il faut faire un tri. Et si le pêcheur sur le bateau ne fait pas un tri, très vite, toute sa cargaison, elle sera pourrie. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus les pasteurs ne veulent plus faire de tri. Parce qu'ils sont taxés de tyrans, parce qu'ils sont taxés. Voilà, tout un tas de raisons. Bon. Mais la parabole, ici, là, qu'est-ce qu'elle dit ? Voyez-vous, on a du mal à appliquer la parole. Quand vraiment ça nous touche, on fait des reculons, on dit « Ah, je ne la connais pas », on ignore ces versets, on ignore ces... Non, la parabole du filet, ça veut dire que, si je reviens en arrière, j'espère que ça marche. Ça marche ? D'accord. Je reviens sur là où il y a la... Oh mince. la persécution. Je suis allé trop loin. Wow. Il faut maîtriser ces petites machines-là. Voilà. Je vais y arriver. Ah oui, je suis allé trop loin. Voilà. Voilà. Les traditions religieuses font que les bons poissons et les mauvais restent dans le même bocal. Moi, ma tradition. Une fois, il y a une chrétienne qui est venue dans l'église et nous, on chantait, on dansait. Enfin, danser, non. Non, surtout pas. On tapait des mains. Et à la sortie, on lui a dit, alors ça va, vous étiez content? Non, je suis furieux, je suis colère, tout ça. Il avait pris un truc comme ça. Il dit, pourquoi? Vous avez tapé les mains. Ah bon? Pourquoi? C'est pas biblique. Le psaume 1 dit taper des mains pour le Seigneur. Et tout ça. Oui, mais mon pasteur, il ne tape pas des mains. Il m'a jamais tapé dans les mains. Je ne reviendrai plus jamais ici. Dis-moi, il n'est plus jamais venu. La tradition. C'est pas la parole, ce qu'elle dit. J'examine la parole, qu'est-ce qui est dit, voilà. Non, non, c'est la tradition. La tradition a un poids qui est absolument colossal. Et là, dans Luc, il est dit, il faut faire un tri. Faut avoir le courage de faire un tri. Alors souvent le tri se fait tout seul. Une fois une dame est venue dans cette église il y a quelques temps, peut-être un an, et au bout de deux cultes, elle est venue voir Michel en me disant, je crois que comprendre, je ne sais pas comment elle a compris, mais vous savez, ces gens comprennent assez vite, je crois comprendre que ici dans cette église, vous voulez qu'on soit chrétien aussi dans la semaine. Alors Michel a dit, oui, vous avez tout compris, il n'est plus jamais revenu. Oui, parce qu'elle avait quitté son mari et elle était déjà partie pour en chercher un autre. On a appris ça après. Mais bon, vous voyez, elle était chrétienne, évangélique, fréquentant les églises évangéliques. Donc il y a tout. Mais le tri s'est fait tout seul, hein, parce qu'elle a compris que chez nous, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes que dans d'autres. Voilà. Le problème, c'est que les chaises ne se remplissent pas très vite comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut garder toutes sortes de poissons ou il faut garder les poissons vivants? Vous voulez être vivant? Vous êtes bien dans cette église. Mais si vous préférez descendre le courant, c'est pas cette église qu'il faut choisir. Nous voulons impacter le monde. Amen. Nous voulons être de ceux qui amènent le royaume de Dieu dans le siècle présent. Il y en a qui le veulent? Alors prions. Seigneur, nous te prions pour que tu nous donnes la persévérance malgré l'opposition qui vient de toutes parts pour nous décourager. Seigneur, nous savons que nous sommes tes disciples parce que nous suivons ton enseignement et ta parole. Et Seigneur, ta parole est claire à ce sujet et nous montre que, Seigneur, si nous te suivons, nous allons rencontrer les mêmes difficultés que toi, qui a dû dire à Pilate, « Oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Seigneur, nous attendons, bien sûr, le royaume à venir, lors de la parousie, mais en attendant, nous voulons faire les œuvres du royaume là où tu nous as placés, Seigneur. Tu bénis chacun de ceux qui sont ici ce matin, afin que durant cette semaine, déjà, ils puissent réaliser cette vérité et la mettre en pratique dans leur vie familiale, professionnelle, dans leur vie sociale, leur vie associative, Seigneur, partout où tu les as placés, qu'ils puissent être des témoins de la vérité et non pas du mensonge. Seigneur, tu nous aides, tu nous fortifies, tu nous accordes ton secours au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons enchaîner avec